Nous poursuivons avec la revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
La nature a horreur du vide, surtout la nature politique d'ailleurs. Ça se confirme ces jours-ci au Cameroun.
Oui, là-bas se déroulait dimanche une élection présidentielle que l'on a beaucoup dite verrouillée en faveur du président Paul Biya. 6 mandats déjà à la tête de son pays et un tapis rouge déroulé en sa faveur, à en croire ce qu'en disait avant le vote le journal du Cameroun. Mais 48 heures plus tard, toujours aucun résultat officiel n'a été annoncé, mais le ton a changé. On le voit à la une du quotidien Mutation de Yaoundé ce mardi. La saison des longs couteaux, ça c'est le grand titre, avec en dessous les photos de deux hommes, deux opposants à Paul Biya qui dès hier se sont engouffrés dans le vide, l'absence de résultats officiels donc, et ont annoncé publiquement leur victoire. Il y a le jeune Cabral Libi qui déclare sans apporter de plus de preuves « Il n'y a pas de doute, je suis l'élu du peuple camerounais ». Et il y a surtout Maurice Kamto, le plus sérieux des concurrents au président sortant. On retrouve sa déclaration dans Jeune Afrique, notamment ce matin, d'abord avec une métaphore destinée aux amateurs de football. « J'ai tiré le pénalty historique et le but a été marqué ». C'est un peu codé, je vous l'accorde, mais la suite est beaucoup plus claire et volontairement solennelle.
J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. J'invite le président de la République sortant à organiser les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir.
Maurice Kamto, ancien bâtonnier et ministre de la Justice camerounais, amorce donc le bras de fer avec Paul Biya. C'est l'analyse de Jeune Afrique pour qui les 8 minutes de ce discours d'hier changent considérablement la narration d'une élection que l'on disait donc écrite à l'avance. Mais en faisant cela, Kamto s'expose à la riposte du camp présidentiel. Le site Africa News compile les contre-attaques qui lui ont été adressées hier. Maurice Kamto déclaré hors la loi, accusé de se mettre en travers des institutions. Et Africa News toujours semble s'inquiéter des suites possibles de cette crise post-électorale qui pourrait s'envenimer alors que le Conseil constitutionnel camerounais a 15 jours pour proclamer les résultats officiels. On n'est pas trop loin, nous dit-on, de scénarii à la gabonaise quand le pays d'Omar Bongo en 2016 avait connu une vague d'arrestations, de violences après que le principal candidat d'opposition se fût déclaré vainqueur à la présidentielle. La victoire finale avait été attribuée à Ali Bongo, le fils du vieux président décédé au Congo.
Merci. Camille, on continue avec le prix Nobel d'économie à deux Américains qui ont été les premiers à intégrer les enjeux climatiques avec leurs travaux sur une croissance mondiale durable.
Et le moins que l'on puisse dire à lire la presse internationale ce matin, c'est qu'en ce jour d'hier où les climatologues du GIEC rendaient un rapport particulièrement alarmant sur le réchauffement climatique, eh bien ce Nobel d'économie semblait faire consensus. À en croire la BBC, les lauréats William Nordhaus et Paul Romer sont récompensés à point nommé en ce qu'ils ont pu proposer des solutions concrètes aux défis posés à l'économie globale par les changements climatiques, comme par exemple l'instauration d'une taxe carbone ou de subventions publiques ciblées pour l'innovation. Mais ce concert de louanges est tempéré ce matin par la revue Science qui, elle, empoigne la controverse autour de ce Nobel. Si les travaux de Romer et Nordhaus sont si unanimement loués, dit le magazine, citant plusieurs économistes dissidents, c'est parce que leurs travaux permettent de préserver dans le chaos climatique qui nous menace le totem d'une croissance de long terme. Or, la croissance comme ultime élément de mesure des succès de nos économies, eh bien c'est justement cette approche qui a conduit à l'aggravation de la crise climatique, lit-on dans Science. Les travaux de William Nordhaus ces 30 dernières années, il y lira-t-on également, n'ont fait que permettre au gouvernement de retarder une vraie réponse à la hauteur des impératifs climatiques en se réfugiant derrière des dispositifs comme la taxe carbone, efficace certes, oui, mais insuffisant.
Et puis on termine avec une histoire de sacs plastiques dans le Caucase en Géorgie. L'interdiction des sacs plastiques est en vigueur depuis le 1er octobre et ça donne lieu à des articles assez surprenants dans la presse.
Oui, cet article notamment trouvé sur le site d'info en ex-URSS eurasianet.org. Pour son auteur Gheorghi Lomsadze, l'interdiction des sacs plastiques donc dans son pays, c'est ni plus ni moins que la fin d'une époque, celle de l'Union soviétique où la fameuse poche en polyéthylène était le marqueur de la modernité. On pourrait écrire l'histoire du monde soviétique rien qu'à travers les sacs plastiques, à en croire cet article qui nous raconte donc leur prolifération sur les marchés dans les années 70, ornés d'images de femmes aguicheuses, de perroquets aux couleurs criardes ou de vedettes de la variété russe. On ne choisissait pas au hasard le sac qu'on allait arborer au marché. Il y avait des effets de mode très puissants, nous explique Lomsadze. Puis ce furent les années 90, la chute de l'URSS, la grande crise économique associée dans l'imaginaire collectif à ces grands cabas renforcés aux motifs écossais. Ailleurs dans le monde, on les a appelés les sacs du bled. Des milliers de femmes géorgiennes les ont utilisés, ces sacs Irak pour aller gagner quelques sous en passant la frontière, en achetant des produits turcs et en les revendant au bazar. Eurasianet conclut cette saga post-soviétique à travers les sacs plastiques en nous apprenant qu'aujourd'hui encore, les Géorgiens utilisent en moyenne 525 sacs par an et par habitant contre 14 dans des pays d'Europe du Nord comme l'Irlande. La Géorgie est la première république d'ex-URSS à appliquer cette interdiction qui a été en fait imposée par l'Union européenne dans le cadre d'un accord de libre-échange. Preuve que derrière un petit changement du quotidien, des mouvements géopolitiques beaucoup plus complexes sont à l'œuvre, Guillaume.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve évidemment sur le site de France Culture. Et là, on va évoquer aussi un autre emblème de la modernité. Ça n'est plus le sac plastique, c'est la voiture. Et elle aussi, c'est un emblème de la modernité très largement controversé. 7h41 sur France Culture.